Bonsoir à toutes et à tous. Dans cette émission Dijonneau Dijonnais, ce soir jusqu'à 20h, nous allons parler de la réforme des retraites préparée actuellement par le gouvernement. Il y a en France 16 millions de retraités, soit près d'un quart de la population. Les pensions qui leur sont versées représentent 280 milliards d'euros, soit plus de 14% du PIB. Or, en raison de la forte croissance du nombre de retraités, les régimes de retraite accusent des déficits importants. Donc, doit-on reculer l'âge légal de départ à la retraite ou le laisser tel quel ? Quel financement pour sauver le système français ? Avec Pierre Bodineau, professeur à l'Université de Dijon-Bourgogne, nous reviendrons sur la naissance de ce régime historique et de son évolution sociale au fil des années. Dans une deuxième partie, nous serons avec Christophe Bèze, directeur adjoint à retraite à la CRAM, la Caisse régionale d'assurance maladie, qui gère tout ce qui ressort des retraites dans la région. L'émission de la CRAM, les différents régimes de retraite, les démarches à réaliser lorsque l'on approche de sa retraite et comment au mieux donc la préparer. Dijonneau Dijonnais, ce soir, spécial retraite avec aussi un volet plus politique avec Rémi Delatte, le député maire UMP de Saint-Apollinaire et le sénateur maire de Dijon, PS, François Absamen. Sont-ils, eux, opposés à la rénovation du système de retraite ? Faut-il partir après 60 ans ou non ? Faut-il prendre en compte la pénibilité et homogénéiser les systèmes privés et publics ? François Absamen et Rémi Delatte, donc mes invités ce soir dans Dijonneau Dijonnais spécial retraite, avec aussi Christophe Bèze de la CRAM et Pierre Bodineau, professeur à l'Université de Dijon-Bourgogne, avec qui l'on commence cette émission. Bonsoir, donc Pierre Bodineau, vous êtes professeur en histoire du droit à l'Université de Dijon-Bourgogne. Je vous ai ce soir invité pour revenir sur la naissance de ce système de retraite dont on parle beaucoup aujourd'hui. Je rappelle ce chiffre, 16 millions de retraités en France, auprès d'un quart de la population. Un chiffre amené à progresser, augmenter avec la forte croissance du nombre de retraités, donc plus de 280 000 par an depuis 2006. J'ai lu quelque part que la naissance de ce régime remontait à décembre 1673. Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que c'est aussi loin que ça.
Oui, on peut toujours dire qu'il y a eu quelque part, effectivement, un système de retraite. En fait, le problème qui est posé, c'est la prise en charge par la société des personnes qui ne sont plus en état de travailler. Alors, c'est vrai qu'à l'origine, cette solidarité, elle s'exprime dans le village, elle s'exprime dans la famille, et puis vient un moment où elle s'exprime dans la profession. Donc les corporations sont d'une certaine façon un des premiers lieux où s'exprime cette prise en charge, toujours avec le même système, c'est-à-dire qu'on on met de l'argent de côté quand on est actif et puis on redistribue cet argent à ceux qui en ont besoin quand ils ne travaillent plus. Mais évidemment, ça ne touche quand même qu'une très petite minorité. Et puis, de la même façon, dans certains secteurs de ce qu'on appelle aujourd'hui la fonction publique, il y a eu un système de retraite qui s'est mis en place dès le XVIIIe siècle. Pour prendre un exemple local, les États de Bourgogne ont un système de retraite pour leurs employés, mais ça touche très peu de monde.
Donc ça remonte quand même au XVIIIe siècle, c'est pas tout
l'idée,
récent.
L'idée, elle est pratiquée. Mais c'est quand même plutôt au XIXe siècle qu'on voit se mettre en place des mécanismes qui sont beaucoup plus systématiques. Alors, je crois que peut-être l'institution la plus caractéristique, ce sont les sociétés de secours mutuels. Alors certes, ça ne concerne pas seulement la vieillesse, ça concerne aussi la maladie. Mais c'est quand même l'idée qu'on accepte de mettre un peu d'argent de côté, qu'on mutualise de façon à ce qu'il puisse être utilisé par ceux qui sont membres de la société. En ce sens, la mutualité a été un des vecteurs principaux de cette solidarité qui s'est mise en place. Alors les sociétés de secours mutuel, c'est un texte de 1852. Et la mutualité est organisée par une loi célèbre, la loi de 1898. Tout ça nous amène, vous voyez, à la fin du 19e siècle.
Et le législateur, lui proprement dit, pardon, il a légiféré donc après la guerre 39-45.
Ah, il a légiféré avant. Alors, peut-être d'ailleurs, c'est l'occasion de dire que dans cette affaire, la France n'est pas pionnière. Il y a bien des pays qui
se sont... Donc on se vend de notre système, mais il n'est pas pionnier.
Ah non, absolument pas. On a toujours ce réflexe de dire « Ah, le système français, c'est tout à fait inexact. » La Prusse a été clairement un pays qui a mis en place... Et ça a pesé sur notre système parce que, comme vous le savez, l'Alsace-Lorraine ayant été annexée Eh bien, lorsque l'Alsace-Lorraine est redevenue française en 1918, les gens de ces trois départements ont dit nous, on veut garder le système qu'on avait.
Forcément.
Et donc, le législateur français a compris que lui aussi devait agir.
Alors, impulsé par la Prusse, finalement, la France
exactement.
A mis en place
un système. C'est quand même un petit peu inexact parce qu'il y avait déjà des choses qui existaient avec la mise en place de la Caisse nationale de retraite pour la vieillesse, qui date quand même de 1850, mais qui était un peu un outil théorique, quoi. Alors, tout de même, le retour de l'Alsace-Lorraine a accéléré les choses, et la première grande législation, c'est incontestablement la loi de 1910, qui institue, ce qui est tout à fait, évidemment, significatif de l'époque, les retraites ouvrières et paysannes. Alors, vous voyez, les retraites ouvrières et paysannes, ça parle à notre esprit, hein. C'était principalement les petits salaires, ceux qui justement n'avaient généralement pas ni la possibilité ni peut-être l'envie, après tout pour une retraite qui serait bien hypothétique, hein, compte tenu de la longévité de cette époque-là, et qui en fait étaient tout à fait ignorés et qui pouvaient se trouver dans des situations très difficiles.
Et la pension était fixe, Pierre Bodineau, à cette époque-là,
ou alors,
pour
avait
les
un
ouvriers
système,
et pour les paysans.
Un système de pension fixe, mais très 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 modeste, hein, qui devait peut suffire quand même à une existence décente. Alors, on va aller plus loin avec la loi sur les assurances sociales de 1928, mais qui ne s'est appliqué qu'en 1930. Là, c'est vraiment l'ancêtre de notre système de sécurité sociale. Et évidemment, dans ces assurances sociales, il y a les risques de l'existence. Et les risques de l'existence, ben, c'est l'accident du travail, c'est la maladie. Et puis, c'est la vieillesse. Ce risque-là, il est difficilement évitable.
Alors, notre système de répartition, comme on le connaît aujourd'hui, il est né donc après 45, hein, c'est ça?
Voilà, tout à fait, parce qu'il est lié, bien sûr, à la mise en place d'un système global de protection sociale qui est notre sécurité sociale. Alors, ordonnance de 1945, complétée par une loi de 1946. Le problème, c'est qu'entre les principes qu'on avait posés à cette époque-là, où tout était possible, et la réalité, il va y avoir tout de même une certaine différence. C'est déjà la diversité des régimes et l'inégalité qui existe forcément par l'histoire. Alors, c'est peut-être le moment de parler un petit peu des régimes spéciaux.
C'est ça, oui. Notamment public et privé, oui.
Voilà, c'est-à-dire les régimes spéciaux, ce n'est pas forcément le privé, mais ce sont des branches professionnelles qui se sont organisées parce que peut-être l'État était plus proche d'elles. Alors, donnons-en quelques exemples. Hein. Le régime des mines, c'est un des premiers. Bon, le régime des mines, c'est un régime qui s'est organisé assez tôt dans les mines d'Anzin, puis qui a été généralisé, qui s'explique en partie par les conditions de travail très difficiles et puis une vie qui souvent n'était pas très longue. Hein. Et donc ce régime particulier, ben, évidemment, c'est le type même du régime qui aujourd'hui n'a plus beaucoup de sens puisqu'il n'y a plus de mineurs.
Qu'il existe toujours aujourd'hui?
Il existe encore parce qu'il y a encore des femmes de mineurs.
Ah, dans les papiers plutôt, oui.
Mais je me souviens très bien, moi, avoir rencontré le directeur de ce régime qui m'avait expliqué qu'il pouvait quasiment programmer la fin de sa fonction. C'est lorsque disparaîtrait la dernière femme de mineur. Et donc c'était envisageable dans un passé relativement proche. Il y a la fonction publique, il y a la SNCF, qui est un assez bon exemple là de décalage entre le nombre des actifs et le nombre des retraités. Hein. Donc, c'est les régimes sociaux. Et le principe qu'on avait posé, c'est que le système devait couvrir tout le monde. Dans la réalité, les régimes spéciaux n'ont pas voulu s'intégrer dans le régime général. Et donc, on a eu la coexistence du régime général et des régimes spéciaux. Hein. Et puis, il y a un dernier problème, c'est ce qu'on appelle les retraites complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dit, bon, ben, on rentre dans le régime général,
mais à côté
on garde un système complémentaire.
Hein. De capitalisation.
Voilà, de capitalisation. Mais c'est vrai qu'un système
Ce qu'ont fait les autres pays, par contre, européens, eux, ils ont continué à avoir cette dose de capitalisation. Et puis
exactement. Alors, d'ailleurs, c'est pas interdit de l'avoir aussi en France, parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre des assurances. Hein. Mais c'est vrai qu'on raisonne sur l'idée de la solidarité, qui est d'abord le mécanisme de répartition, qui suppose évidemment de tenir compte et de l'économie et de la démographie, parce que c'est pas innocent.
Dijonaux, Dijonais ce soir, donc avec Pierre Bodineau, professeur à l'université de Dijon-Bourgogne. On parle des retraites. Le gros problème aujourd'hui, c'est le financement finalement des retraites. On n'a pas su prévoir qu'il y aurait à un moment donné plus de retraités et qu'on aurait du mal à...
On n'a pas su prévoir, on le sait,
oui.
depuis très longtemps. Hein.
On a eu peur de réformer alors.
Voilà, on n'a pas osé réformer. Je rappelle par exemple qu'en 1990, Michel Rocard a été à l'initiative d'un livre blanc où vous trouvez pratiquement tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Hein, donc, parce que quand on regarde un petit peu la société, comment cette société a évolué, on voit bien que d'une part, on commence de travailler de plus en plus tard, d'autre part, on vit de plus en plus longtemps. Donc, évidemment, on voit bien se profiler une espèce de phénomène de...
C'est la logique des chiffres,
de ciseaux. Hein, et cette logique-là, elle s'impose à nous. D'ailleurs, ce qui le montre bien, c'est que quand on regarde tous les pays autour de nous, tous ont commencé une réforme. Alors, je ne veux pas dire qu'on n'a rien fait, mais on a toujours fait des réformes très, très minimalistes. Et évidemment, on n'a pas résolu les problèmes de fond.
Donc aujourd'hui, elle s'impose fondamentalement, cette réforme.
Je crains qu'on soit obligé d'y venir. Alors évidemment, il y a un autre problème qui est celui de la faiblesse des retraites. Parce que là aussi, si évidemment on part du principe que plus on cotise, et en particulier plus on cotise longtemps, plus on a une retraite importante, il y a des professions où on n'a pas cotisé pendant très longtemps. Et c'est le cas de certains régimes spéciaux. Hein, tout le monde connaît, par exemple, la situation de ces épouses de commerçants qui prêtaient la main au
qui
commerce.
Qui travaillaient presque autant.
Voilà,
mais
qui travaillaient presque
cotisé.
Autant, mais qui ne cotisaient pas. Et donc, bien sûr, les retraites sont dérisoires. Donc, ça pose un autre problème, celui d'une retraite décente qui permette de vivre. Et ça, c'est peut-être pas tout à fait le même problème. Ça, c'est le problème d'une prise en charge au nom de la solidarité
donc
nationale.
Donc, il faut prendre en compte toutes ces questions, finalement, dans cette réforme à venir.
Tous ces paramètres en compte. Et puis, bon, je crois que on le sait le faire en France. On n'est peut-être pas obligé de... On croit toujours en France à une réforme définitive, merveilleuse, sensationnelle. La réalité, c'est pas ça. Faut une progression, mais surtout, faut une orientation claire. Il y a un moment où il y a quand même des positions de principe qui doivent être prises et faut pas s'en tirer par des solutions un petit peu fumeuses du style « on fera payer les riches ». Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout le monde sait bien que personne n'est riche.
À
part quelques-uns. Mais ceux-là, vous savez, ça fait longtemps que...
Que leur retraite, elle est assurée.
Voilà, que leur retraite est assurée. Et elle n'est pas forcément assurée dans ce pays et par des mécanismes publics. Donc, il faut regarder clairement le problème de la solidarité. Et je vois mal comment ça ne peut pas, évidemment, passer par une réflexion sur la durée du travail. Là aussi, ce n'est pas tellement un âge automatique. Mais c'est la possibilité de pouvoir continuer de travailler, surtout d'ailleurs quand on le veut.
Une dernière question, Pierre Bodineau. Est-ce que dans les autres pays européens, ils ont été un petit peu plus en avance que nous sur cette question des retraites ?
En tout cas, ils ont été clairs sur l'âge officiel. Hein, c'est-à-dire qu'ils l'ont tous reculé. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y a pas à l'intérieur des possibilités de partir plus tôt pour certaines professions. Mais on est parti sur l'idée quand même que, puisqu'on vivait plus longtemps, on devrait travailler un petit peu plus longtemps. Mais peut-être qu'on peut travailler dans des conditions plus agréables quand on est le moins jeune.
Merci Pierre Bodineau, professeur en histoire du droit à l'Université de Dijon-Bourgogne. Dans un instant, Christophe Besse, directeur adjoint retraite à la CRAM. À tout de suite. Dijonaux, Dijonais, donc ce soir consacré aux retraites sur Cassis FM. Place donc à mon deuxième invité. Bonsoir donc Christophe Besse, directeur adjoint retraite à la CRAM, qui est donc la Caisse régionale d'assurance maladie en Bourgogne, mais aussi en Franche-Comté. La CRAM, qui est un organisme de droit public privé, mais chargé d'une mission d'intérêt public. Voilà. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être venu donc jusqu'à Cassis ce soir. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler les principales missions de la CRAM pour les salariés, pour les entreprises et puis aussi pour les retraités?
Bien sûr. Donc la CRAM Bourgogne et Franche-Comté est d'abord chargée de gérer les carrières et la retraite à l'ensemble des salariés de ces deux régions. Une deuxième grande mission, c'est de gérer le risque professionnel, donc la prévention des risques professionnels auprès de l'ensemble des entreprises de Bourgogne et de Franche-Comté. Troisième grande mission, c'est l'action sociale en faveur de nos retraités, une action sociale vieillesse en faveur de nos retraités, peu dépendants, hein, qui bénéficient d'un GIR 5 ou 6 dans le jargon. Et puis, une autre mission qui est de favoriser l'accès aux soins des personnes fragilisées, hein, et éventuellement de leur venir en aide.
Ça représente combien de personnel, la CRAM Bourgogne et Franche-Comté ?
Alors, la CRAM est une grande entreprise, hein, de services publics, puisqu'elle rassemble 950 collaborateurs.
D'accord. Et justement, avec ce nombre de retraités qui progresse, est-ce que vous aussi, vos effectifs vont progresser dans les années à venir ou ça va rester à peu près similaire ?
Alors, comme tous les services publics aujourd'hui, vous le savez, dans un contexte de déficit, nous sommes amenés à réaliser des efforts et des progrès dans notre gestion et nos effectifs n'augmenteront pas et même diminueront, marquant ainsi la contribution de la CRAM, hein, aux nécessaires économies publiques.
Vous allez faire comment ? Vous allez mieux rentabiliser votre temps ?
Alors, il y a plusieurs axes conduit, bien sûr, en liaison avec nos instances représentatives et avec l'ensemble des personnels concernés, mais nous recherchons des gains de productivité dans toutes nos activités à travers l'utilisation de nouvelles technologies, à travers l'amélioration de nos procédures. Voilà.
Et vous allez y arriver.
Il faudra bien.
Et Christophe Besse, donc l'invité ce soir de Dijonneau et Dijonnaise spécial retraite, il est donc le directeur adjoint à la CRAM. Il y a en France donc 16 millions de retraités, soit près d'un quart de la population. Est-ce qu'on sait combien de retraités y a-t-il donc en Bourgogne et Franche-Comté ?
Alors en Bourgogne et Franche-Comté, on est à près de 600 000 retraités actuellement, qui représentent également les plus de 60 ans, hein, en règle générale, 24% de la population dans ces deux régions.
On sait que la Bourgogne est plutôt une région vieillissante. Je ne sais pas trop pour la Franche-Comté, est-ce que ça se voit dans les chiffres ?
Oui, il y a un léger écart avec la moyenne nationale et avec d'autres régions. La Bourgogne et la Franche-Comté, globalement, sont des régions où il y a la proportion de personnes âgées est plus importante, surtout en Franche-Comté, hein, que dans d'autres régions.
Il n'y a pas de disparité dans les départements. Par contre, vous n'avez pas des chiffres assez précis pour ça ?
Non, je ne peux pas vous les citer de mémoire, mais il est clair que les départements comme la Côte d'Or, hein, beaucoup plus urbains, présentent un ratio
logique,
avec davantage d'actifs que des départements plus ruraux comme la Nièvre, par exemple.
Alors, pour rester dans les chiffres, je vous demandais de regarder un petit peu le montant moyen d'une pension. Moi, j'avais 1400 euros net mensuels, là aussi. Est-ce qu'il y a des disparités
Alors, sur le montant des moyens d'une pension, c'est un peu difficile parce que quand on fait une moyenne, on ajoute des choux et des carottes et on divise par deux, mais ça donne pas un ordre de grandeur. Effectivement, les pensions moyennes du régime général pour les salariés, ça tourne autour de 1000 euros pour la pension de base, hein, qui est gérée par la Sécurité sociale. Maintenant, le chiffre que vous citez, 1400 euros, doit tenir compte de la partie complémentaire de ces retraites qui sont gérées pour les salariés, hein, par l'ARCO et la GIRC si vous avez été cadre. Donc, 1000 euros, la base, à peu près 400 euros en moyenne, là encore, de complémentaires, 1400 euros. Simplement, ça cache des disparités très importantes.
On sait que, par exemple, les agriculteurs ont des pensions.
Alors, les agriculteurs,
tout à fait faibles, qu'après, c'est autre chose. Oui.
Ils ont déjà leur propre régime quand ils ont été eux-mêmes chefs d'entreprise agricole. En revanche, les salariés agricoles aussi ont un régime un peu spécifique. Mais même à l'intérieur des salariés, vous avez aujourd'hui une très forte proportion, hein, ça dépasse 50% de notre région, de personnes qui ont de très petites pensions, hein, tout simplement, et en particulier chez les femmes, bah, parce qu'elles ont eu des carrières où elles ont peu cotisé, où elles ont peu travaillé, où elles ont été interrompues pour élever des enfants en particulier, et ben forcément, vous voyez le résultat arriver à la retraite avec des pensions plus faibles. Mais à l'inverse, vous avez un certain nombre de salariés qui ont le maximum ou presque pour le régime de base et qui, de plus, avec le régime complémentaire, obtiennent des pensions beaucoup plus importantes.
Ça représente un montant total de combien pour l'année ?
Alors,
pour
année,
les deux régions ?
Chaque année, la CRAM verse plus de 4 milliards 200 millions d'euros, hein, à ses 600 000 bénéficiaires en Bourgogne et Franche-Comté, ce qui fait d'elle une des institutions les plus importantes dans cette région.
Donc vous êtes un transfert finalement de financement, puisque vous recevez des fonds puis vous les reversez aux retraités.
Tout à fait, c'est ainsi que s'exprime le mécanisme de solidarité qui sont mis en œuvre à travers la sécurité sociale et en particulier la retraite des salariés.
C'est l'État qui vous verse directement ou comment ça se passe dans les
Alors non, depuis l'origine, la sécurité sociale garde ou préserve une certaine autonomie dans sa gestion.
D'accord, donc ça passe pas par
l'argent,
en haut pour venir en bas.
C'est une autre institution qui... Si, ça passe en haut, mais le haut, c'est pas l'État, c'est les URSSAF que chacun connaît également et qui prélève les cotisations auprès des employeurs qui ensuite sont reversées aux caisses qui les distribuent, dont la CRAM pour la vieillesse.
Très bien, Dijonneau Dijonnais spécial de retraite ce soir avec Christophe Bèze, le directeur adjoint retraite à la CRAM, la Caisse régionale d'assurance maladie, donc en Bourgogne, mais aussi en Franche-Comté. Je le disais tout à l'heure, je parlais des agriculteurs, parce que finalement, c'est vrai que certains ont des régimes spécifiés. Vous vous occupez quand même de la majorité des retraités.
Alors, on s'occupe de tous les salariés, et les salariés aujourd'hui, c'est 90% des personnes qui travaillent sont salariés. À l'intérieur de ces 90%, la CRAM va atteindre 80% de la population active, puisqu'il y a à peu près 10% de salariés, mais qui travaillent dans la fonction publique ou des régimes particuliers que nous ne gérons pas. Donc c'est 80% des personnes qui aujourd'hui travaillent vont être concernées à un moment donné par une retraite auprès de la CRAM. Mmh. Et pour les retraités, comme il y a eu par le passé davantage d'agriculteurs ou de professions indépendantes, la CRAM sert des retraites à peu près 55% des retraités.
Alors pour savoir, pour ceux qui sont peut-être prochainement en retraite, pour savoir combien on va toucher entre guillemets, il faut s'adresser en fait à quel organisme, à tous ceux à qui on a cotisé finalement.
Alors oui, aujourd'hui, on a encore une pluralité de régimes et de carrières des personnes qui ont pu avoir des trimestres agricoles, ramasser les pommes dans leur jeunesse, enchaîner sur un travail de salarié.
Donc alors là, d'où l'intérêt de tout garder, crame, c'est etc. ça, il faut garder
tout à fait,
ces fiches
je crois
de
que
paye.
C'est effectivement un conseil essentiel pour tout le monde, et en particulier les jeunes qui sont peut-être moins sensibles sur ces affaires
mais
de retraite.
Mais les jeunes étudiants, ça compte pour la retraite.
Tout compte. Dès lors que vous travaillez en étant déclaré, bien entendu, votre employeur lui-même est tenu d'informer la CRAM tous les ans à travers ses déclarations sociales de combien il vous a versé comme salaire et du coup combien lui-même a versé de cotisations pour votre retraite future. Mmh. Ces éléments-là sont conservés par l'assurance retraite et au moment de votre retraite, on ressort l'ensemble de ces éléments-là qui nous permettent de calculer votre retraite. Donc il est comme dans tout système automatique, sur 40 ans, il est toujours possible qu'il y ait des erreurs, qu'il y ait des oublis, qu'il y ait quelque chose qui fasse, qu'on vous redemande au moment de prendre votre retraite, tel ou tel élément de votre carrière. Donc c'est vraiment important, gardez tous vos bulletins de salaire, mais pas seulement. Gardez aussi vos attestations, par exemple, si vous connaissez des périodes de chômage, les attestations ACEDIC, gardez tout ce qui peut être utile au moment de votre retraite. Mais bien sûr, bulletin de salaire, attestations diverses liées à votre activité ou à votre période de non-emploi.
Alors, ce qui me fait penser, Christophe Bèze, au film Mammouth, qui est sorti donc la semaine dernière avec Gérard Depardieu et qui, lui, donc, va à la recherche justement de ses fiches de paye parce qu'il n'a pas tout gardé et que finalement, il ne sait pas trop comment faire pour avoir sa retraite. Il lui manque des papiers.
Tout à fait. Donc, pour éviter d'être dans cette situation et de devoir enfourcher une moto à travers la France entière, je crois qu'on a tout intérêt, effectivement, à prendre rendez-vous avec un de nos conseillers retraite en appelant notre plateforme téléphonique au 08 21 10 21 10. Vous aurez un rendez-vous dans une de nos 17 agences en Bourgogne et Franche-Comté avec un spécialiste de la retraite qui va vous aider à reconstituer tous les éléments nécessaires de votre carrière et ensuite vous expliquer comment va se passer le calcul et le versement de votre retraite.
Il faut y penser quand finalement à la retraite? Est-ce qu'à 30 ans il faut déjà y penser? Est-ce qu'à 54 ans il faut y penser? 59 ans ou alors faut...
Alors je dirais, chacun peut y penser à titre personnel pour les choix dans sa vie. Mais pour le calcul et savoir combien on va toucher, il y a un moment pour tout. Sachez que désormais, depuis quelques années maintenant, à partir de 35 ans, tous les 5 ans, chaque salarié reçoit chez lui un document qui s'appelle relevé individuel de situation et qui lui permet de voir un extrait de toute sa carrière.
D'accord,
vous recevrez
déjà un premier bilan
par génération. À 35 ans, vous en recevez un, à 40 ans, à 45, à 50, donc ça vous suit. Et c'est là, ça peut être l'occasion, si tout est bon,
vous n'avez
rien
déjà
à faire. Si il vous semble qu'il vous manque quelque chose, vous appelez là encore sur notre plateforme et on rétablira la situation. Ensuite, à partir de 55 ans, on commence à rentrer dans les choses sérieuses.
On y pense sérieusement.
Voilà, pour à la fois sa vie personnelle et puis pour le calcul et l'optimisation de ses droits pour sa retraite. À ce moment-là, là encore, vous recevrez à 55 ans automatiquement une estimation indicative globale, une EIG dans le jargon. Cette estimation vous donnera un calcul approximatif et sans garantie, puisque les législations peuvent évoluer, mais ça vous donnera une idée de combien vous toucheriez si. Voilà, en fonction de votre durée d'activité encore, en fonction d'un certain nombre de paramètres comme ça. Là encore, cette estimation, vous verrez, il figure dedans des éléments de votre carrière. C'est le moment, là encore, de bien vérifier que La CRAM est en possession de tout ce qu'il faut pour calculer votre retraite. Et puis, je dirais, dernier moment, où là, on est vraiment dans le moment où on peut percevoir sa retraite, à partir de 58 ans, je crois que c'est le moment de prendre rendez-vous avec un conseiller retraite auprès d'une de nos agences pour étudier bien en amont toutes les possibilités. Parce que la retraite, ce n'est pas automatique d'abord. Il faut la demander, ça je le précise, parce qu'on a toujours et malheureusement des
quelques problèmes. Ça ne se déclenche pas automatiquement.
Non, voilà, ça ne se déclenche pas automatiquement. Il faut la demander, c'est une garantie, c'est pour, parce qu'on n'est pas obligé de partir en retraite, ce n'est pas une obligation, c'est un droit. Donc il faut le demander, premier élément. Et deuxième élément, il y a de plus en plus de dispositifs permis par la loi qui permettent de continuer à travailler en ayant un supplément de pension ou d'arrêter de faire liquider, pardon, de bénéficier de sa retraite tout en continuant à travailler. Donc il y a de multiples mécanismes qui méritent, je crois, une explication par des professionnels de la retraite et c'est ce qu'on offre dans toutes nos agences retraite.
Le guichet à Dijon, il est situé où ?
Alors nous avons trois agences retraite à Dijon. Pour desservir toutes les zones de l'agglomération. Nous en avons une à Quetigny, pas très loin de ses studios, quelques centaines de mètres. Nous en avons une autre boulevard Carnot. Et enfin, pour Dijon Sud, une avenue Jean Jaurès.
Une dernière question avant de vous en aller et avant de partir et de laisser place aux deux invités politiques qui vont suivre Rémi Delatte et François Semaine dans ce studio de Cassis. Aujourd'hui, les régimes de retraite sont confrontés à de graves déficits. On parle de 32 milliards d'euros donc, cette année. Si rien n'est fait, évidemment, ça va s'accentuer. 70 milliards en 2030, 100 milliards en 2050. Alors j'espère que les prévisions vont se tromper, mais est-ce que ce sont des chiffres plausibles, au moins, que vous qui êtes un expert dans ce domaine-là ?
Alors il m'appartient pas, bien sûr, de revenir sur les études qu'a menées le Conseil d'orientation des retraites et qui ont été publiées dans la presse. Ce qu'il faut dire, je crois, c'est que tout simplement, quand on a de plus en plus de retraités à qui il convient de verser une pension qu'on souhaite tous décente et leur permettant de vivre à peu près comme ils vivaient quand ils étaient actifs, et que de l'autre côté, il y a de moins en moins d'actifs pour payer à travers leurs cotisations ces retraites-là, il y a bien un problème de financement qui se pose et qui est accentué, d'abord par l'arrivée à la retraite des personnes du baby-boom, et de toute façon qui se pose, comme dans tous les pays développés maintenant, parce que les générations qui arrivent désormais à la retraite, et je crois qu'il faut le dire, grâce au système de la sécurité sociale et de l'assurance retraite, ont des retraites plus importantes que par le passé. C'est ce qui explique aussi ce besoin de financement. Donc la nation aura cette année, le gouvernement et la nation dans son ensemble auront à prendre des décisions en matière de financement ou de pérennité de ce régime. Mais je crois que, en tant que gestionnaire, en tant qu'opérateur de l'assurance retraite, la CRAM se réjouit de voir aujourd'hui que le principe même d'une retraite solidaire par répartition, où les actifs payent pour les retraités d'aujourd'hui, parce qu'ils ont la garantie que demain les futurs actifs paieront pour eux quand ils seront retraités. Aujourd'hui, cette solidarité fait consensus et que chacun est prêt à bouger pour préserver ce système. En tout cas, c'est tout notre souhait en tant que gestionnaire
de ce système. Réformer tout en préservant ce système de répartition. Je rappelle pour finir, Christophe Besse, donc ce numéro 3960 pour aller aux retraites, puis le numéro que vous avez cité tout à l'heure, c'est 08 21 10 21 10, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait, pour prendre rendez-vous notamment avec nos conseillers retraite dans l'une de nos 17 agences sur les deux régions.
Dont 3 à Dijon, donc Quetigny, boulevard Carnot à Dijon, et puis donc avenue Jean Jaurès, et puis ce site internet également, l'assurance-retraite.fr pour plus d'infos. Merci. Dans un instant, les deux invités politiques de cette émission, Rémi Delatte, député maire UMP de Saint-Apollinaire, et puis le sénateur maire PS de Dijon, François Rebsamen, restez là, c'est tout de suite après la pub. Troisième partie donc de Dijonneau et Dijonnais ce soir enregistrée pour cause d'agenda politique. Je reçois donc pour commencer le député maire UMP de Saint-Apollinaire, Rémi Delatte. Et puis dans un deuxième temps, François Rebsamen, sénateur maire PS de Dijon, pour parler donc de cette réforme du système de retraite. Le gouvernement donc a engagé une concertation avec les partenaires sociaux puis les politiques aussi. Qu'est-ce que vous en attendez de cette concertation, Rémi Delatte ?
Ben, je crois que tout le monde est bien conscient qu'il faut aujourd'hui engager la réforme retraite, et le gouvernement souhaite que cette réforme soit la plus consensuelle possible, et il était tout naturel d'engager une concertation, vous l'avez dit, avec les partenaires sociaux, avec l'ensemble des partis politiques, y compris les groupes parlementaires donc du Sénat et de l'Assemblée.
C'est indispensable, cette réforme, on l'a dit déjà en amont de cette émission, mais on ne peut plus faire avec ce système actuel.
C'est indispensable et je crois que c'est de la responsabilité du gouvernement d'engager cette réforme. Aujourd'hui, on est confronté à un manque de financement de 32 milliards pour l'année 2010. et qui passera à 50 milliards quasiment à l'horizon 2020, ceci n'est pas supportable et il est normal, si l'on veut pérenniser notre système de retraite, qu'on fasse la réforme dès maintenant. Il faut conduire une réforme avec courage, il faut conduire une réforme avec responsabilité, une réforme qui devra être efficace et surtout une réforme qui doit être juste.
Est-ce que ça sera justement facile d'appliquer cette justesse pour tout le monde ?
Facile, probablement pas. Je crois que ça sera d'autant plus facile que tout le monde jouera le jeu, si je peux m'exprimer ainsi. Je suis dans la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale et j'ai la chance de pouvoir auditionner actuellement énormément d'experts, énormément de responsables, que ce soit les responsables du corps, les responsables également des partenaires sociaux. Et nous avons un langage qui me semble être un langage responsable, où chacun est bien conscient qu'effectivement il faut faire vite. On n'est pas tous d'accord sur la façon de pouvoir conduire cette réforme. En tout cas, faisons-le dans la concertation. Et je crois que c'est la seule façon de pouvoir proposer quelque chose pour les Français, quelque chose qui soit, encore une fois, qui nous permette de sauver le système des retraites.
Les points importants, Rémi Delatte, de cette réforme, c'est d'abord l'âge légal, le maintien ou non de l'âge légal de départ en retraite.
Je crois qu'il y a plusieurs paramètres. Il y a plusieurs paramètres. Le premier, c'est le niveau de cotisation. Le second, c'est effectivement le niveau des pensions qui sera versé. Et le troisième, c'est effectivement la durée de cotisation. Je préfère d'ailleurs qu'on parle de durée de cotisation plutôt que d'âge de départ à la retraite. D'ailleurs, cette notion avait été considérablement déjà revisitée à l'occasion de la loi Fillon, puisque dès 2003, on a pris en compte les carrières de longue durée. Je crois que c'est une dimension qu'il faut que nous perdions de vue. Je voudrais d'ailleurs préciser ce soir que si on n'avait pas, en 1983, si l'âge de la retraite n'était pas passé à 60 ans, aujourd'hui, nous serions placés dans une situation complètement différente de celle que nous vivons aujourd'hui, puisqu'on se poserait la question de la répartition des excédents du régime des retraites. Donc vous voyez que quelquefois, il faut être un peu responsable. Donc je crois que la culture a un peu évolué en la matière et qu'il faut plus parler, encore une fois, de la durée de cotisation.
Alors pour vous, justement, cette durée de cotisation, elle est fixe. Est-ce qu'il faut, donc j'insiste pour cet âge quand même légal de départ, on n'est pas tous d'accord dans la classe politique en tout cas.
Je crois que la réforme sera d'autant plus pertinente qu'elle intégrera des notions nouvelles, des notions telles que la pénibilité. Je crois qu'on est quand même conscient aujourd'hui que la durée moyenne de vie des Français n'est pas la même en fonction de la durée, de la pénibilité à laquelle ils ont été exposés. Je crois que c'est une notion sur laquelle le gouvernement souhaite faire preuve d'audace. Et je crois que sur ce point, les partenaires sociaux auront sans doute à cœur de contribuer à cette innovation. C'est important. D'ailleurs, les partenaires sociaux ont déjà défini une liste des professions qui pourraient être considérées comme plus pénibles que d'autres. Et je crois que c'est une notion, encore une fois, importante. Mais il y en a d'autres. Il y a également le travail du travail des seniors, qui est aussi une notion importante sur laquelle on a déjà un petit peu avancé sur le plan législatif. Mais je pense qu'il faut que là aussi, on ait l'audace d'aller plus loin. Il y a aussi toute la solidarité qui se dégage autour de la retraite. En fait, cette réforme, il faut l'aborder pas tant que sur un niveau, j'allais dire, économique, financier, d'équilibre. Il faut le faire aussi dans une relation nouvelle entre le travail et les Français. Je crois que c'est l'occasion de se dire, finalement, est-ce que le fait de travailler peut-être plus longtemps, est-ce que ne doit pas être aussi une dimension humaine, sociétale importante, qui fait partie de la réflexion que nous devons avoir.
Ça va engager chez les Français un bouleversement quand même dans cette réforme de retraite, ou alors elle va passer comme une lettre à la poste malgré...
Non, je vous l'ai dit au départ, ça va être une réforme difficile. Ouais. Ça va être une réforme difficile parce que c'est sûr que c'est quand même des aspects très sensibles. Mais je crois que les Français ont beaucoup évolué dans leur réflexion. Et aujourd'hui, ils savent bien que si on veut pérenniser le système, et en particulier pour les générations suivantes, il faut que nous fassions des réformes. Mon sentiment, et en tout cas je plaiderai pour ça au Parlement, c'est qu'il faut faire une réforme qui soit efficace, qui soit, j'allais dire, qui aille jusqu'au bout. Il ne faut pas se contenter de petites réformettes, sinon dans 2-3 ans, on recommencera. Et aujourd'hui, le corps nous donne, le comité d'orientation des retraites nous donne des indications qui sont tout à fait intéressantes, justement, sur la pérennité du système. Nous sommes aussi contraints de revisiter les choses par rapport à ce qui avait été prévu en 2003 du fait de la crise. La crise a quasiment fait modifier de 20 ans les échéances que nous avions fixées, enfin que le corps avait en son temps prévues, uniquement par le fait que nous avons des recettes en moins. Plus de chômage, donc des recettes en moins et des équilibres plus importants au niveau du système.
Ça sera, Rémi Delatte, a priori, la grosse réforme en tout cas de cette deuxième partie du quinquennat de Nicolas Sarkozy. C'est une réforme qu'il ne faut pas rater, sans doute, pour le gouvernement. Comment elle est perçue au niveau du clan politique UMP? Il y a eu des avis partagés pour d'autres réformes. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, au sein de ce parti?
Ben, je crois qu'elle va se faire dans la confiance, elle va se faire dans la volonté de la réussir, c'est-à-dire en écoutant. Et jusqu'au mois de juin, on va avoir toute cette phase d'écoute. Je vous l'ai dit.
C'est assez, justement, mai-juin, pour discuter avant de voter cette
réforme à la
rentrée.
Quand on fait un petit retour en arrière, les grandes réformes du régime des retraites ont toujours été conduites par la droite. Ça a été M. Balladur, ça a été M. Fillon, ce sera demain M. Vorte avec donc François Fillon et Nicolas Sarkozy. Et les réformes ont toujours été conduites dans un temps qui est proche de celui que nous avons choisi aujourd'hui. Je crois qu'il faut que nous prenions le temps, effectivement, de la réflexion, mais ce temps est déjà engagé depuis plusieurs semaines. Il va se conduire jusqu'à l'été, et c'est quand même un temps suffisant. Mais je crois qu'il y a le temps ensuite de la décision. Et c'est aux politiques de décider. Et je crois que c'est quand même aussi, comme je le disais au départ, c'est notre responsabilité. Il faut que nous soyons engagés sur ce sujet. Nous serons engagés et nous serons d'autant plus unis que justement cette concertation aurait été la plus fructueuse possible.
Dijonneau et Dijonnais, ce soir, spécial retraite avec le député maire UMP Rémi Delatte, donc de Saint-Apollinaire. Une dernière question avant de partir sur la réforme aussi du système de retraite pour les ministres, pour les parlementaires, pour, entre guillemets, les privilégiés, puisque c'est quand même un système privilégié aussi pour vous. Est-ce que là aussi il va être réformé? Le ministre du Travail, Éric Woerth, l'a dit dimanche à Suritélé. Est-ce que ça sera vraiment le cas?
C'est évident. C'est évident, c'est une exigence. On peut pas dire on va réformer, on va essayer de conduire à la convergence de l'ensemble des systèmes pour ne pas se l'appliquer à soi-même. C'est pas du tout dans mon tempérament, je parle à titre personnel, mais en tout cas c'est pas non plus dans la culture de ce que veut la droite, bien sûr. Au contraire, c'est un système qui soit plus juste et plus efficace, qui garantisse la pérennité pour tout le monde. L'avantage aujourd'hui qui est octroyé, c'est qu'on a la possibilité pendant un mandat de pouvoir racheter effectivement des points. Donc ils sont quand même acquis, ils ne sont pas octroyés comme ça gratuitement. Mais c'est vrai que c'est un avantage qui est important et bien il faut savoir le reconnaître et donc le remettre en cause. Alors je vous dis, on est en début de concertation, de réflexion, mais je crois que quand on demande à ce qu'il y ait une convergence qui soit engagée, on ne peut pas encore une fois s'exclure du jeu.
Merci Rémi Delatte, député maire UMP de Saint-Apollinaire, d'être venu jusqu'à Cassis ce soir pour parler des retraites. Dans un instant, François Rebsamen, à tout de suite. C'était Pink Martini sur Cassis, dernière partie de Dijonneau et Dijonnais ce soir, donc consacrée aux retraites jusqu'à 20h. Avec moi dans ce studio, François Rebsamen, le sénateur maire PS de Dijon, donc une partie enregistrée puisque pas possible de venir dans les studios de Cassis entre 19 et 20 ce soir. On s'arrange donc avec les politiques. Merci d'être venu, François Rebsamen, pour parler des retraites. Je sais que Martine Aubry a rencontré hier le ministre du Travail, Éric Woerth. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous l'avez eu depuis au téléphone. Vous savez ce qu'elle a dit exactement au ministre?
Bien sûr, bien sûr. Martine Aubry a d'abord demandé au ministre qui est en charge de ce dossier quelles étaient ses propositions.
Elle a voulu les garder, non? C'est ça?
Non, elle a demandé au ministre quelles étaient les propositions du ministre, parce que c'est lui qui est en charge du dossier. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes pas au gouvernement. Et donc, Elle a rappelé d'ailleurs au ministre qu'en 1998, elle avait ce dossier, comme on dit, sur la table et qu'elle l'avait traité et qu'elle l'avait fait en toute transparence. Donc elle a interrogé Éric Woerth pour savoir quelles étaient les propositions du gouvernement. Vu que le ministre n'a pas répondu sur les propositions du gouvernement, elle a rappelé les grands principes qui doivent guider, je le crois, l'action publique, on va dire, en la matière.
Mais elle n'a pas révélé ses propres propositions, ses solutions miracles, entre guillemets.
Non, elle a rappelé les principes qui doivent guider pour que cette réforme soit juste et qu'elle prenne en compte l'attente, l'inquiétude d'ailleurs que les Français manifestent sur ce dossier. C'est normal, cette inquiétude est normale. On a travaillé toute une vie, on veut savoir quand est-ce qu'on peut partir à la retraite, quel va être le montant de sa retraite. Et donc c'est au gouvernement de nous dire cela. Par contre, elle a rappelé son état d'esprit, le nôtre, le mien, à savoir que nous sommes prêts à participer à cette réflexion, mais sur la base des propositions du gouvernement, bien évidemment.
Alors, il y a eu quelques réflexions depuis donc, cette rencontre entre Martine Aubry et puis Éric Woerth. Donc, je lisais sur les échos.fr donc, aujourd'hui que le PS ne se déroberait pas, c'est ce qu'elle a en tout cas déclaré, qu'elle voulait une réforme juste et efficace et qu'elle craignait qu'elle soit bâclée. Et puis, de principe, pas question donc, de relever l'âge légal de départ en retraite à 60 ans et pas question non plus de toucher au fonds de réserve des retraites. Il y a quand même donc deux principes établis, écrits.
Oui, pourquoi parle-t-elle de ces deux sujets? Parce que c'est quand même deux marqueurs importants pour les Français, même s'il y en a un qui est moins connu. Vous savez que le gouvernement de Lionel Jospin a créé un fonds de réserve pour les retraites. Donc ce fonds de réserve des retraites, il est alimenté à hauteur de 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros, d'ailleurs le gouvernement ferait bien de continuer à l'alimenter, ce qu'il ne fait pas. 30 milliards d'euros, c'est exactement à peu près le déficit du régime des retraites cette année. Et donc la tentation est grande pour le gouvernement, nous le savons, et moi-même je siège à la commission des finances du Sénat, je le sais, de faire main basse sur ce fonds de réserve des retraites, de le prendre, mais c'est, excusez-moi de l'expression, c'est un coup, une fois, on peut le faire une fois. Or, nous, il a été mis en place pour compenser, à partir de 2020, le décalage important qu'il y aura entre le nombre d'actifs et le nombre d'inactifs. Donc on doit continuer à l'alimenter, et non pas le ponctionner pour un déficit que le gouvernement contribue à créer.
Et sur l'âge légal de départ à la retraite, François Rebsamen ?
Eh bien écoutez, je pense que 60 ans, c'est une grande avancée sociale et qu'on ne doit pas toucher au départ à l'âge légal à 60 ans. Mais.
Il y a un mais donc.
Oui, il y a un mais, c'est la possibilité, selon les cas, pour ceux qui souhaitent poursuivre le temps de travail, de pouvoir le faire. Mais ceux qui veulent partir doivent pouvoir partir. Et ils doivent pouvoir partir, je le dis, avec un montant. Avec un montant, c'est très important, c'est ça qui est important en réalité, un montant de cotisation, un montant de retraite suffisant pour pouvoir en vivre.
Quelques chiffres que je rappelle donc, dans cette émission consacrée aux retraites. Donc, les régimes sont confrontés à des déficits importants, on le sait. 32 milliards d'euros et si rien n'est fait, 70 milliards estimés en 2030 et 100 milliards en 2050 pour les prévisions les plus pessimistes. De par ces chiffres, on sait et on dit, et c'est évident que la réforme est indispensable en fait.
Oui, personne ne nie le fait qu'il faille adapter notre système de retraite. C'est vrai que plus, et c'est une bonne chose, l'espérance de vie s'allonge et il est normal de réfléchir à, par exemple, une augmentation de la durée des années de cotisation. C'est pas quelque chose qui est tabou pour les socialistes, loin s'en faut. Mais il faut maintenir un bon niveau de retraite, parce que c'est la vie, ainsi la vie de travail qui est récompensée. Et puis je voudrais quand même dire que les déficits dont vous parlez, que le Conseil d'orientation des retraites a estimé, ils sont aussi dépendants de l'activité économique. Et suivant le taux de chômage que vous avez un déficit ou pas de déficit. Du temps de Lionel Jospin, il n'y avait pas de déficit parce qu'il y avait de l'emploi. Aujourd'hui, il y a un taux de chômage énorme et donc il faut replacer la réforme des retraites dans le système global. C'est-à-dire que si demain, ce que nous espérons, enfin le taux de chômage baisse, les cotisations vont rentrer. Et donc le déficit va, non pas disparaître, mais va diminuer. diminuer. Et donc, l'action du gouvernement doit être aussi une action, comme on dit, macroéconomique, c'est-à-dire il faut qu'ils agissent pour faire diminuer ce taux de chômage qui frappe deux catégories particulières, les jeunes, c'est un vrai problème pour notre société, et les seniors. Car c'est quand même paradoxal que la droite veuille repousser, parce que c'est cela derrière, repousser l'âge légal de départ à la retraite, alors que nous sommes le pays d'Europe où, à partir de 55 ans, il y a le moins de taux d'emploi des seniors. Donc, vous voyez, au gouvernement de nous faire des propositions, nous, nous sommes prêts à rentrer dans la discussion. Nous n'avons pas de tabou sur ce sujet, à part les deux points qui ont été évoqués par Martine Aubry. L'âge de départ, 60 ans, et on ne touche pas au fonds de réserve. Oui. Et on continue de l'alimenter.
Dijonais spécial, donc retraite ce soir avec François Rebsamen, sénateur maire PS de Dijon. Cette réforme, tout le monde la veut juste, la veut efficace. En même temps, elle sera difficilement applicable. En tout cas, applicable peut-être aussi, mais il faut que tout le monde s'y mette, je veux dire. Il ne faut pas que, que même, on va parler tout à l'heure des retraites des parlementaires également, mais il faut qu'elle touche. Il faut qu'elle touche vraiment tout le monde. C'est ce que
bien
disait
sûr,
Cyril Delatte.
Et vous savez, aujourd'hui, il faut prendre en compte ce que tout le monde appelle la pénibilité du travail. Alors évidemment, quand on dit pénibilité, on ne dit rien, parce que tout le monde trouve son travail pénible. Mais,
il y en a quand même plus que d'autres, quoi.
Voilà, il y a une double injustice aujourd'hui. Ceux qui cotisent le plus longtemps sont les salariés les plus fragiles et sont qui ont le plus bas taux de retraite et l'espérance de vie moindre. Et donc, le système actuel, il est triplement injuste, on pourrait dire. Ceux qui sont rentrés le plus tôt dans le travail ont fait les travaux ou les métiers les plus difficiles, ont une espérance de vie moins grande que les autres. 10 ans d'écart entre l'espérance de vie de profession du bâtiment, par exemple, certaines professions du bâtiment et des cadres. Donc, quand on parle de pénibilité, la seule pénibilité à prendre en compte, c'est l'espérance de vie. Et ça, l'espérance de vie, c'est la plus grande des injustices qui puisse exister dans notre société. Donc il faut permettre à ceux qui ont l'espérance de vie la plus courte, si je peux dire, moindre, il faut leur permettre de pouvoir partir plus tôt que les autres. Et tout le monde le comprendra. Et surtout qu'ils ont souvent cotisé plus que les autres. Donc vous voyez comment imaginer que quelqu'un qui a été un métier pénible, prenons un métier véritablement pénible, maçon, carreleur, depuis l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 60 ans, qui a cotisé 44 ans, ne lui permettrait pas de partir à 60 ans avec un bon taux de retraite, alors que des cadres, eux, pourraient partir par des avantages indus. Plus tôt, voilà.
François Rebsamen, donc invité de Cassis ce soir. Dans le cadre de cette concertation, donc, le ministre invite tous les politiques à s'exprimer, tous les partis politiques. C'est indispensable aussi, cette concertation. Il faut qu'ils voient tous les partis.
Oui,
et tous les partenaires sociaux.
C'est ce qu'avaient fait, bien sûr, les partenaires sociaux. C'est ce qu'avait fait le gouvernement de Lionel Jospin. C'est ce qu'il faut faire. Et moi, je souhaite que cette réforme, alors ça dépendra des conditions dans lesquelles le gouvernement fera cette concertation, ça dépendra du temps qu'il y mettra. Si c'est uniquement de pure forme, évidemment, ça ne passera pas bien.
Le but, c'est de retirer les propositions des uns et des autres pour justement faire la réforme la plus efficace possible.
Voilà, nous on est prêts à y participer, je l'ai dit. Je pense que sur ce sujet, qui est un sujet majeur pour la société française, il est indispensable qu'on prenne le temps. On fera pas une réforme cette année pour 40 ans, c'est pas vrai. Il faut pouvoir revoir en fonction des évolutions économiques, du taux de chômage, des déficits, bien sûr, cette réforme, par exemple, prendre des rendez-vous tous les 5 ans en assurant les Français qu'ils auront un taux de retraite qui leur permettent de vivre décemment. C'est pas le cas aujourd'hui pour un certain nombre de professions, et qu'ils pourront, en fonction justement de leur espérance de vie, partir quand ils ne peuvent plus travailler. Mais on doit, je crois, toutes les formations politiques doivent chercher la convergence sur ce dossier. Le consensus, le compromis, c'est l'avenir de notre société qui se joue à travers cela. Et en tous les cas, c'est l'état d'esprit des socialistes. Nous sommes prêts à y participer, au gouvernement, de faire les choses clairement, de mettre les propositions sur la table. Je ne sais pas ce que vous a dit le député UMP Rémi Delatte, mais à eux de nous dire ce qu'ils veulent faire quand même. C'est eux qui sont au pouvoir, c'est eux qui sont au gouvernement, ils doivent nous dire leurs propositions. Et à partir de là, on peut leur dire, on est d'accord avec celle-là, avançons ensemble, voyons les organisations syndicales. Je veux dire que le Parti Socialiste a rencontré toutes les organisations patronales et syndicales.
Et la CFDT encore aujourd'hui.
Voilà. Et donc, on leur dit nos propositions, ils les connaissent. Mais le gouvernement, lui, doit nous dire les siennes, en tous les cas.
Est-ce qu'il faut aussi une réforme adaptée, puisqu'on parlait des différents métiers et puis des différences entre les personnes et les salariés. Est-ce qu'il faut donc que la réforme s'adapte finalement? Alors, on ne va pas retourner au régime spécifié, mais est-ce qu'il y a une petite part en fait d'adaptabilité? Est-ce que ça, c'est possible?
Bien sûr. Bien sûr, parce que c'est tout à la fois la retraite, c'est tout à la fois collectif et individuel.
C'est ça, ouais.
Donc, il faut qu'il y ait, je crois, un accord sur le collectif, un consensus qui se dégage dans notre société sur les grandes orientations collectives. Et puis, parce que la santé est quelque chose de profondément individuel et injuste, finalement. Telle personne sera malade, telle autre ne le sera pas. Il faudrait qu'il y ait, vous voyez, on peut faire des propositions, une sorte de comité national qui permette de dire à une personne qui veut continuer à travailler, vous pouvez continuer à travailler. Une sorte d'examen médical qui soit fait, qui permette à chacun d'estimer s'il peut ou s'il ne peut pas en fonction de son état de santé.
Et entre le public et le privé, est-ce qu'on peut imaginer une homogénéisation totale?
Bien sûr, il faut aller vers l'homogénéisation publique-privée. Il n'est pas normal, vous voyez. Il n'est pas normal, d'ailleurs, l'uniformisation sur la durée de cotisation, les années de cotisation, en prenant en compte l'espérance de vie, je le redis, doit se faire, bien sûr.
Et j'en viens donc à la question sur la disparition des privilèges. Donc, les Français sont prêts à faire des efforts, la classe politique doit en faire plus qu'eux, a plaidé donc Éric Woerth sur IT les dimanches. Là aussi, donc, le monde politique doit être exemplaire dans cette réforme, mais aussi ailleurs.
Oui, c'est bien que M. Woerth découvre qu'il cotise à plusieurs caisses de retraite et que les ministres...
C'est vraiment avantageux, cet avantage
C'est injuste. c'est pas le cas d'Éric Woerth est un cas intéressant. Quand on est député, donc on cotise à une caisse pour la retraite des députés. On pourra en parler après. Mais quand on est ministre, on cotise à une caisse en tant que ministre. Mais on peut garder en même temps sa retraite de député, continuer à cotiser. Oui. C'est ce qu'a dit François Baroin, qui a dit « Mais moi, je vais continuer aussi à cotiser comme député. » Donc voilà, ça, c'est des choses qui ne devraient pas pouvoir exister. Mais il est temps qu'ils s'en aperçoivent. Ça m'inquiète sur les comptes de la nation. Quand vous apercevez qu'un ministre découvre qu'il cotise à plusieurs caisses de retraite, ou fin de découvrir, parce qu'on leur demande, en réalité, quand ils sont nommés ministres, s'ils souhaitent continuer à cotiser en tant que député. Visiblement, il avait dû répondre oui, et il avait dû oublier.
François Rebsamen, invité de Cassis ce soir. Peut-être une dernière question sur le financement des retraites. Que prévoit le PS en la matière? Moi, j'ai lu, là aussi, dans les échos, par exemple, l'élargissement de l'assiette des cotisations à la valeur ajoutée.
Bien sûr. Il n'est pas normal. Là, on parle des recettes. C'est un sujet tellement majeur pour notre société que, j'allais dire, le capital, la plus-value réalisée avec le capital ne soit pas taxée. Et ne contribue pas à cet effort national pour assurer des retraites de bonne qualité. Mmh. Mais ça, on touche à un tabou pour la droite. Vous savez, les stock options, oui, les bénéfices des banques, tout ça ne doit pas être appelé. Nous pensons qu'il faut élargir, effectivement, l'assiette des cotisations en appelant, comme ça s'est fait pour la CSG, tous les revenus à participer à cet effort national.
Très bien, merci François Rebsamen d'être venu sur Cassis ce soir pour discuter de ce projet de réforme donc important pour la France, le projet de réforme des retraites qui sera donc dévoilé dans l'année. Et puis je remercie aussi les autres invités, Rémi Delatte, député-maire UMP, Pierre Bonino, professeur à l'université, et puis Christophe Besse de la CRAM. On se retrouve dès demain à 6h. Et puis si vous voulez retrouver cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site de Cassis, cassisfm.com. Belle soirée à tous et je vous laisse en musique.